Vous écoutez France Culture.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Place de la Toile, le magazine des cultures numériques. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Au sommaire de cette émission, plongé dans son ordinateur, Thibaut Henton répondra à la question « Tout réseau est-il conscient ?» Thibaut, que l'on retrouvera à la fin de l'émission pour son complément d'enquête, le son ce sera une utopie en chanson. Quant à notre invité, Sébastien Broca, pour parler de la politique du logiciel libre. Je ne compte pas le nombre d'émissions que nous avons conclues par un tonitruant. La solution, de toute façon, c'est le logiciel libre. Alors bien sûr, on a souvent parlé du logiciel libre dans cette émission un peu plus en détail. On a invité certains de ses praticiens et de ses défenseurs en France. On a évoqué aussi souvent les grandes figures de son histoire, à commencer par Richard Stallman, évidemment. Mais je ne crois pas que nous ayons consacré une émission entière à comprendre la logique profonde du logiciel libre, à expliquer comment était née cette idée qu'il fallait que le logiciel soit libre, à bien distinguer par exemple le logiciel libre et l'open source, à expliciter la logique politique à l'œuvre de le logiciel libre et à montrer comment ses ambitions et d'ailleurs ses filiations dépassaient largement le champ de l'informatique. Alors peut-être que si nous ne l'avons pas fait, c'est parce que l'occasion nous avait manqué. Mais elle se présente aujourd'hui, elle se présente avec un livre qui est paru tout récemment aux éditions du Passager clandestin, un livre qui est intitulé « Utopie au singulier du logiciel libre » qui est sous-titré « Du bricolage informatique à la réinvention sociale ». Bonsoir Sébastien Broca.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue au Centre d'études des techniques, des connaissances et des pratiques de la Sorbonne et vous êtes l'auteur de ce livre. Et c'est vous qui nous fournissez donc l'occasion de cette émission sur le logiciel libre. Alors je suis content d'avoir attendu 6 ans presque, parce que votre livre est très intéressant, très bien fait. Et d'ailleurs, juste en préambule, je le conseille à quiconque s'intéresse non seulement au logiciel libre, mais aux cultures numériques en général, tant le travail que vous avez fourni est informé, il est clair, il est politique au sens où il inscrit cette histoire du logiciel libre dans une histoire politique qui est beaucoup plus large, comme on essaiera de le voir. Alors, maintenant que je vous ai mis la pression, il va falloir être à la hauteur de ces compliments. Alors Sébastien Broca, on va commencer par essayer de raconter, alors évidemment ça se fera très vite, mais on va faire cette histoire à grands pas. Mais dans la première partie de l'émission, j'aimerais qu'on raconte un peu cette histoire. Et donc pour la raconter, pour comprendre pourquoi a germé dans des esprits l'idée qu'il fallait que le logiciel soit libre, il faut qu'on vienne un petit peu en arrière, dans un temps reculé, où on ne parle pas encore de logiciel libre, parce que tout simplement on ne parle pas encore de logiciel propriétaire. Comment, Sébastien Broca, est-ce qu'on fabriquait des logiciels dans les années 70, au début des années 80 ?
Oui, alors pour comprendre ça, je pense qu'il faut revenir au fait que l'informatique, historiquement, a été développée en tant que discipline dans un contexte public, universitaire, surtout à partir de l'après-guerre. Et donc, si on se place dans les années 70, l'informatique, à cette époque-là, c'était des gros ordinateurs, des grosses machines dans les entreprises, l'administration. Et les logiciels, en fait, étaient souvent fournis par les fabricants de matériel gratuitement, comme une sorte de garniture pour donner plus de saveur à leur coûteux système, coûteux hardware.
Donc pas de distinction software-hardware, en tout cas du point de vue industriel.
En tout cas, du point de vue industriel, il n'y avait pas d'économie du logiciel autonome, il n'y avait pas de marché vraiment pour le logiciel. Et l'autre chose à rappeler, c'est que donc, les informaticiens, ils sont issus d'une culture donc développée essentiellement au sein des universités américaines, qui repose vraiment sur le partage du savoir, sur la collaboration, et donc sur le fait qu'ils pouvaient s'échanger des bouts de code sans problème, pour, comme on s'échange, c'est ce qu'ils disent parfois, comme on s'échangeait du sel ou du poivre entre voisins, quoi. Et donc ce système-là, il est encore en vigueur dans les années 70. Et puis il y a un événement quand même considérable qui vient bouleverser tout ça à la fin de la décennie, au début des années 80. Et ça, c'est l'apparition de l'ordinateur personnel, du PC qu'on connaît bien aujourd'hui. Et donc à ce moment-là, c'est là qu'en fait se crée la possibilité d'un marché du logiciel autonome qui va donc toucher le grand public en fait, très rapidement, puisqu'en quelques années, le micro-ordinateur rentre dans les familles, dans les foyers de la classe moyenne. Et donc, à ce moment-là, c'est là qu'il faut faire intervenir donc, ce personnage majeur de cette histoire qui est Richard Stallman, donc, qui est le père vraiment du logiciel libre, qui, dans les années 70, était un informaticien au MIT, donc la grande université américaine.
Massachusetts Institute of Technology.
Tout à fait. Et qui, du coup, donc, est vraiment issu de cette culture de l'informatique, vraiment, donc, qui mettait en avant le partage de l'information. Sauf que donc avec l'apparition de l'ordinateur personnel, cette culture est battue en brèche, si vous voulez. Lui, il expérimente au sein du MIT le départ d'un grand nombre d'informaticiens qui vont intégrer des entreprises, donc pour éventuellement gagner très bien leur vie, mais moyennant un renoncement à ces principes de publicité du savoir, puisqu'ils vont par exemple signer des clauses de confidentialité qui les empêchent de partager leur travail avec leurs pairs, avec leurs collègues. Et donc le code source des logiciels, ce qu'on appelle le code source, pour dire très simplement ce que c'est un peu la recette de cuisine du logiciel, c'est les instructions qui déterminent l'exécution du programme. Et donc ce code source, qui auparavant était public, était librement accessible à tous, eh bien, quand se crée cette industrie du logiciel, il va être fermé, privatisé, propriétarisé, pour que les entreprises, donc Microsoft et d'autres, puissent tirer un bénéfice commercial de ces logiciels.
Alors justement, est-ce qu'on peut dire deux mots quand même du rôle de Bill Gates ? Alors c'est pas qu'il faut forcément mettre toujours des grands personnages dans l'histoire. L'histoire ne se fait pas qu'avec des grands personnages, comme on l'a appris les historiographiques depuis quelques temps déjà, mais enfin quand même. Bill Gates, il a un rôle quand même dans cette histoire, parce qu'il appartient quand même au départ à cette espèce de communauté des programmeurs qui s'entraident, etc. Puis il y a quand même un moment où lui, il envoie, c'est intéressant, c'est qu'il envoie sur la newsletter du Homebrew, c'est ça, Computer Club, il appartient à une sorte de club de programmeurs comme ça, et il envoie, alors qu'il est tout jeune, une lettre qui va être partagée, dans laquelle il dit, non mais attendez, on est en train de récupérer mes bouts de code, de fabriquer des trucs avec, moi je veux que ça ne se passe pas comme ça.
Exactement, et ça c'est un événement qui est souvent cité par les gens du libre, c'est en 1976, il publie cette lettre ouverte qui s'appelle « An open letter to hobbyists », et donc là il accuse donc les hobbyistes, ceux qui font de l'informatique pour le loisir, pour le plaisir, d'utiliser le code qu'il écrit sans lui verser aucune rémunération, et il dit « c'est un scandale, ce travail que je fais, il mérite rémunération comme n'importe quel travail, et donc il faut vraiment cesser de considérer le code comme quelque chose qui n'a pas de valeur commerciale, qui peut juste s'échanger. Moi, je veux gagner de l'argent sur le travail que j'effectue en tant qu'informaticien. »
Et il a réussi.
Et il a ensuite très bien réussi.
Puisque très vite, il s'associe, il crée Microsoft, il s'associe avec IBM et il devient le fournisseur officiel. Donc, il y a cette branche-là, vous l'avez expliqué, bon, Bill Gates et puis tous les autres qui vont rejoindre les entreprises privées, créer leur propre entreprise, etc. Puis de l'autre côté, il y a Stallman.
Exactement.
Alors, donc, chercheur au MIT en intelligence artificielle, mais très vite intéressé par le bidouillage. Et alors, quel va être le déclic ? Et donc, qu'est-ce qui va créer Stallman ?
Et donc, il voit à un moment donné, à ce moment-là, la communauté qu'il avait connue au MIT complètement se disloquer parce que les informaticiens partent faire du business. Et à un moment donné, il dit « Ah non, moi, je ne suis pas d'accord. Je m'oppose à cette évolution. Je veux vraiment maintenir vivante cette culture, qui est la culture hacker aussi. » Bon, on reviendra peut-être sur ce terme. Mm-hmm. Vraiment la culture de la bidouille informatique, justement, de ce rapport un peu créatif, ludique aux technologies. Et il dit donc je ne suis pas d'accord avec les nouvelles valeurs qui sont charriées par l'industrie du logiciel, et donc je vais résister en créant le mouvement du logiciel libre pour faire en sorte de maintenir pour les utilisateurs la possibilité d'avoir accès au code source et aussi pour faire vivre cette culture de la collaboration, de l'échange du savoir entre informaticiens.
Donc là, on est au tout début des années 80.
Là, on est au tout début des années 80. On est en 1983 quand vraiment il lance qui s'appelle le projet GNU.
Alors qu'est-ce que c'est GNU ?
Alors, GNU, en fait, c'est le projet qu'il lance en 1983 pour créer un système d'exploitation qui serait entièrement libre.
Donc, un système d'exploitation, c'est le logiciel le plus fondamental d'un ordinateur. Voilà, c'est celui à partir duquel on va pouvoir greffer tous les logiciels, etc., et faire fonctionner la machine vraiment.
Exactement. Et donc, lui, à ce moment-là, il dit je me lance dans ce projet qui, alors au début, ça paraît complètement pharaonique, voire complètement irréaliste. Il dit je veux recréer quasiment de zéro un système d'exploitation qui serait donc entièrement libre, dont le code source serait disponible et donc qui pourrait être librement modifié, copié, utilisé et distribué.
C'est ça, parce que là vous venez comme ça au fil de la parole de donner quand même quelque chose qui est fondamental, qui sont les quatre règles qui garantissent la liberté du logiciel. Alors c'est quoi ces quatre libertés du logiciel libre ?
C'est une grande question. Qu'est-ce que veut dire ce libre dans le logiciel libre ? En fait, ça veut, donc d'après Richard Stallman, ça suppose quatre libertés qui vont être octroyées à tous les utilisateurs du logiciel, qui sont la liberté d'utiliser le logiciel, de le copier, de le modifier et d'en distribuer des versions modifiées. Et donc, voilà.
Ça, c'est la base,
c'est les quatre libertés du logiciel libre. Et Stallman donc, insiste toujours pour dire que son combat, c'est un combat qui porte sur la liberté et non pas sur la gratuité. Parce que bon, une confusion fréquente, c'est de dire que les logiciels libres sont des logiciels gratuits, ce qui est vrai dans la plupart des cas. Mais pour Stallman, ce n'est pas ça qui est important. Son combat, ce n'est pas un combat pour que les logiciels soient gratuits, c'est un combat pour qu'ils soient libres. Et donc, il dit souvent, il ne faut pas confondre free speech et free beer. Mm-hmm. Parce que c'est vrai qu'en anglais, on a cette équivoque sur le terme free, qui veut dire à la fois libre et gratuit.
Et la bière gratuite.
Et le logiciel libre, il faut comprendre libre au sens de free speech et non pas au sens de free beer.
Mmh. Alors donc, à partir de ces quatre règles fondamentales, il commence à créer GNU, donc, qui est un travail absolument gigantesque et qui ne fait pas seul.
Oui, alors au début, il est quand même assez seul. Ouais. Hein, c'est pour ça que le projet, au départ, paraît vraiment assez utopique au mauvais sens du terme, pour le coup, irréaliste, chimérique. Donc il commence, puis c'est vrai que ça commence assez doucement, parce que ça commence en 83, et puis bon, jusqu'au début des années 90, bon, il arrive à créer quelques logiciels, mais on est très très loin d'avoir un système d'exploitation vraiment complet et fonctionnel. Et donc c'est ensuite, alors l'histoire prend une nouvelle tournure, si vous voulez, au début des années 90, parce que là apparaît donc un deuxième personnage central dans cette histoire, qui est Linus Torvalds, qui est donc un informaticien finlandais.
Un jeune type à l'époque.
Qui est un jeune type à l'époque, ouais, étudiant à Helsinki, et qui lui se met un peu, mais sans, avec des ambitions assez modestes à la base finalement, à créer donc un logiciel qui va s'appeler ensuite Linux, qui est en fait le noyau du système d'exploitation, à savoir un peu le cœur, si vous voulez, d'un système d'exploitation et qui est justement un élément qui manque à ce moment-là à GNU. Et donc, le projet de Linus Torvalds, très rapidement, il prend une ampleur assez insoupçonnée parce que, grâce à l'ouverture du code source, il y a plein d'informaticiens à travers le monde, parce qu'à ce moment-là, on est aussi au début d'Internet, qui se mettent à collaborer pour enrichir l'esquisse, l'ébauche qu'avait fait Linus Torvalds dans sa chambre d'étudiant. Et donc, au bout de quelques années, donc là, peut-être en 93, 94, quelque chose comme ça, là, Linux a vraiment devenu un logiciel tout à fait fonctionnel. Et donc là, on a cet attelage qui se crée, si vous voulez, entre le projet GNU de Stallman et le noyau Linux, qui donne GNU Linux. Et là, à ce moment-là, on a pour la première fois un système d'exploitation entièrement libre. Et là, donc, le projet de Stallman, qui paraissait fou 10 ans auparavant, a vraiment une concrétisation.
Mais Sébastien Broca, c'est-à-dire qu'en même temps, on a la concrétisation d'une utopie fondamentale du logiciel libre à travers ce système d'exploitation entièrement libre qui est GNU Linux. Ça, c'est pour une part, donc grande réussite pour une part. Mais de l'autre, on a aussi un début de... Alors, c'est pas vraiment une dissociation, mais en tout cas d'une distinction qui s'opère entre les partisans de ce qu'on pourrait appeler une ligne dure du logiciel libre et ceux qui sont plus dans la voie de Linus Torvalds, qu'on appelle l'open source. Alors, est-ce que vous pouvez... Alors, c'est très compliqué, parce que quand on parle à Stallman, il crie sur la moindre personne qui utilise le mot d'open source à la place du logiciel libre, etc. C'est de loin, c'est pas forcément très simple, parce que c'est des mouvements qui sont assez convergents par ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui distingue logiciel libre et open source, et justement ce qui distingue Stallman de Torvalds?
Alors, j'ai essayé de faire ça en quelques mots. Alors, Stallman, donc lui, il a toujours dit, si je défends le logiciel libre, c'est pour une raison de principe, c'est pour défendre des valeurs, et c'est même un combat qui a une dimension éthique. Il dit vraiment, pour moi, ce n'est pas éthique d'utiliser du logiciel propriétaire, et donc, si vous voulez, il n'y a aucune bonne raison d'utiliser du logiciel propriétaire, parce que, voilà, pour lui, c'est quelque chose qui est éthiquement indéfendable. Torvalds, lui, a toujours eu un propos un peu différent. Il a dit, bon, j'aime beaucoup le logiciel libre, je fais du logiciel libre, mais non pas pour des raisons de valeur ou des raisons éthiques, mais parce que c'est just for fun. Essentiellement pour m'amuser, parce que c'est plus intéressant, parce que j'apprends des choses, parce que ça permet, en ouvrant comme ça le code source, ça permet des larges collaborations qui permettent de produire des logiciels plus meilleurs, tout simplement, plus performants, plus efficaces. Et donc, avec Torvalds, on a un discours autour du libre qui émerge, qui est centré beaucoup plus sur la performance des logiciels, sur le fait aussi, puis sur le fun, l'amusement qu'on peut éprouver à programmer dans des circonstances assez agréables pour des informaticiens, avec une certaine dose de liberté. Et ce discours-là, il tranche avec le discours vraiment beaucoup plus normatif, beaucoup plus sur les valeurs qu'a toujours été celui de Stallman. Donc ça, on commence à voir apparaître un peu cette distinction-là au début des années 90, et elle va ensuite en fait se radicaliser à la fin de la décennie, quand là c'est le moment où les entreprises commencent à s'intéresser au logiciel libre. Et donc, c'est à ce moment-là qu'apparaît le vocabulaire open source, qui va finalement finir par désigner un discours autour du logiciel libre beaucoup plus favorable aux entreprises, cette volonté d'aller... je digresse un peu, mais il faut aussi peut-être que les gens visualisent un peu à quoi ressemble Richard Stallman. C'est-à-dire que Richard Stallman, c'est vraiment un personnage incroyable, mais qui a une dégaine de hippie barbu,
encore aujourd'hui.
Hein. Et donc, alors que l'open source, c'est plutôt des gens qui vont se présenter bien coiffés, bien rasés, en costume, et qui vont aller voir les entreprises pour leur tenir un discours sur la réduction des coûts, sur la performance des logiciels, et pour essayer de les amener à l'open source, donc par ce biais-là, et pas du tout par le discours sur les valeurs de Stallman.
Et pourquoi est-ce que les entreprises, au cours des années 90, donc à partir de très vite en fait, à partir du moment où sort GNU Linux 93-94, qu'est-ce qui intéresse les entreprises dans le logiciel libre ?
Schématisant un peu, en fait, c'est toujours pareil. Ce qui les intéresse, c'est que c'est la réduction des coûts. Déjà, c'est un des premières grandes...
C'est-à-dire utiliser des morceaux qui sont déjà fabriqués par d'autres, c'est ça, réduction des coûts ?
Oui, tout à fait. Par exemple, IBM s'est lancé assez tôt dans le logiciel libre, alors que pourtant, ce n'est pas spécialement une entreprise qu'on associe à la promotion d'une informatique libertaire. Mais à un moment donné, à la fin des années 90, à un moment donné où IBM était un peu en difficulté, justement, ils se sont lancés dans l'open source avec cette idée que finalement, ils allaient pouvoir... soit profiter de contributions parfois faites par des bénévoles, mais bon, sinon aussi mutualiser leur R&D, leur recherche-développement, avec d'autres entreprises. Parce que ce que permet l'open source, c'est ça. C'est à partir du moment où on ouvre le logiciel, on peut avoir un logiciel qui est utilisé par plusieurs entreprises et qui donc est développé collaborativement par ces entreprises, ce qui du coup représente une économie substantielle en termes de recherche et développement par rapport à la situation où elles auraient développé ce logiciel toute seule. Quoi.
Mais par exemple, en quoi est-ce que Google est une entreprise qui doit quelque chose à l'open source ?
Google doit quelque chose à l'open source parce qu'elle utilise énormément de logiciels open source pour propulser ses services et parce qu'effectivement, ça lui fait faire des économies considérables. Et en fait, bon, Google, mais on pourrait citer tous les géants du web, tous les Facebook, les Amazon, et puis maintenant toutes les entreprises informatiques, Intel, Oracle, IBM, toutes ces entreprises-là utilisent de l'open source parce que ces logiciels sont devenus extrêmement robustes et performants, et surtout parce qu'ils coûtent moins cher que de payer pour tous ces développements informatiques en interne.
Mais c'est une sorte d'ironie de l'histoire assez forte, ce retournement, Sébastien Brocard.
Oui, c'est un peu l'histoire bien connue qui se répète finalement de la récupération par le capitalisme des mouvements qui à un moment donné peuvent sembler avoir une portée subversive et critique, et puis le capitalisme a cette force énorme de réussir à récupérer, à intégrer finalement... en tout cas très souvent, ce qui pouvait paraître le contester dans un premier temps.
Et ça, on pourrait l'analyser comme une forme de victoire de l'open source sur, si tant est qu'il y ait un combat entre les deux, une sorte de victoire de l'open source sur le mouvement du logiciel libre, tendance canal historique, si on peut dire, non ?
Oui. Surtout que même au niveau du vocabulaire, je pense que c'est encore plus sensible aux États-Unis qu'en France, mais le terme open source a vraiment triomphé en fait. Aux États-Unis, vous parlez essentiellement d'open source beaucoup plus que de free software, ce qui fait évidemment enrager Richard Stallman, mais c'est comme ça.
Est-ce que du coup ça a marginalisé Stallman et le logiciel libre ?
Je pense que ça l'a marginalisé à un certain moment, mais après, la force aussi donc, du free software canal historique, c'est qu'il a réussi, justement, en étendant son discours à d'autres objets que les logiciels, à garder sa portée plus critique et subversive, notamment en s'engageant sur toutes les questions de propriété intellectuelle en dehors du logiciel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, les libristes, comme on les appelle, ceux qui sont vraiment sur cette ligne plutôt... fidèles à Richard Stallman et au free software, c'est des gens qui sont maintenant extrêmement engagés sur des combats comme on l'a vu avec Adopi en France, ACTA plus récemment. Là, ils sont en train de se mobiliser sur le traité transatlantique TAFTA. Et donc, voilà, toutes les questions liées en fait à la propriété intellectuelle et à la circulation de l'information et des connaissances dans le monde numérique sont devenues des questions centrales pour le mouvement du logiciel libre. Et c'est aussi comme ça qu'il a eu un second souffle, peut-être.
Et ben justement, Sébastien Brocard, c'est ce qu'on va regarder en deuxième partie d'émission, c'est-à-dire comment est-ce que la question du logiciel libre à la fois s'articule et sort de l'informatique, en amont d'ailleurs et en aval de son histoire. Mais tout de suite, Thibaut Henton, qui s'est plongé cette semaine dans son ordinateur pour répondre à la question « Tout réseau est-il conscient ?»
Tout réseau est-il conscient ? Christophe Koch, ou Koch, un neuroscientifique de l'Institut Allen pour les sciences du cerveau, soutient quelque chose comme ça. Pour lui, la conscience émerge de n'importe quel système d'information qui a atteint un certain niveau de complexité, ou plutôt d'intégration, du ver de terre à l'homme jusqu'à l'Internet. L'univers étant composé d'espace, de temps, de masse et d'énergie, le secret de la conscience doit nécessairement reposer dans des configurations originales, un ensemble de liens ou d'interactions qui finit par produire quelque chose de plus que la seule somme de ses parties, c'est-à-dire une conscience. Je pensais qu'une conscience n'existait que lorsqu'elle était saisie, c'est-à-dire ressentie et exprimée par une autre conscience. Petite recherche dans le disque dur de mon ordinateur, ma mémoire extériorisée, je retrouve un vieux cours sur Leibniz, philosophe qui n'est pas très loin du panpsychisme de Koch. Je lis bien que la conscience, pour Leibniz, consiste en effet dans l'intégration de petites perceptions inconscientes. Au départ, il y a de l'énergie, des stimuli nerveux, des signaux électriques, de la fibre optique si l'on veut, une matérialité donc. Mais cette matérialité n'atteint le niveau de la conscience qu'à condition d'être incarnée, de disposer d'un corps informé, c'est-à-dire tout à la fois et en même temps, d'une configuration physique et de sa traduction spirituelle. Donc, si une machine à calculer, un ordinateur, à savoir un réseau de transistors, peut être dit intelligent, et d'ailleurs on dit bien téléphone intelligent, non ? Cette intelligence-là qualifie toujours un assemblage artificiel d'éléments séparés. Une machine intelligente est une machine dont chaque composant transistor obéit par ailleurs à une organisation propre, à la différence d'un organisme vivant qui, lui, est une machine dans chacune de ses parties. C'est la connexion spontanée d'éléments indissociables qui le caractérise comme conscient. Si l'homme ou l'animal peut être dit conscient, donc, c'est parce qu'il est infiniment plus une machine que n'importe quelle machine à calculer. L'intégration qui caractérise la conscience d'un réseau est d'abord une incarnation, un organisme. Un réseau de machines ne constituera jamais une machine, ni une société d'individus conscients, une superconscience. J'ai beau avoir jeté tous les contenus de mon esprit dans la mémoire de mon ordinateur programmé pour les recevoir, mon ordinateur reste muet, par exemple, quand je lui demande de répondre à cette question que je me pose aujourd'hui. Koch répondrait sans doute que ce qui manque à mon ordinateur est le plan des connexions de ces contenus dans mon cerveau, mon connectome, et qu'une meilleure connaissance du réseau cérébral pourrait confirmer sa théorie. Il pourra, à ce sujet, sans doute compter bientôt sur la Brain Initiative, un très important effort de recherche en vue de cartographier de manière exhaustive l'activité de nos neurones. Un effort soutenu par l'administration Obama et la DARPA, vous savez, la recherche et développement de la défense américaine à l'initiative d'Internet. Internet. Je réalise maintenant que cette question que je me pose est en fait consubstantielle à l'utopie numérique dès sa naissance, au début des années 50, quand l'ingénieur Jérôme Wiesner s'opposait au cybernéticien Norbert Wiener sur la manière dont cerveau et ordinateur pouvaient s'inspirer l'un l'autre. Se demander si tout réseau est conscient, c'est donc, à l'aide des neurosciences, une manière d'actualiser ce vieux débat.
Merci Thibaut. Quiconque est capable de résumer cette chronique en une phrase sera remercié par l'humanité entière. On vous retrouve à la fin de l'émission Thibaut pour votre complément d'enquête. On écoute la célèbre Free Software Song, la chanson du logiciel libre, sur parole d'ailleurs je crois, de Richard Salman, dans une des très très nombreuses versions qui sont disponibles. Dirty monopoly, pick up a side, you won't believe what you see. You got everything you need for your dinner station. Take it from me with no manipulation. Sign up, no boy, download, enjoy. It's easy to say, we're coming up for a play. All you need is a will to break away from the back. You see the light, my friend, then you look back. Join us now and share the software. Vous écoutez France Culture et Place de la Toile, le magazine des cultures numériques où nous parlons aujourd'hui du logiciel libre avec Sébastien Broca, qui est auteur de Utopie du logiciel libre, de bricolage informatique à la réinvention sociale. Un ouvrage qui vient de paraître aux éditions du Passager clandestin. Alors nous avons fait au pas de course une histoire du logiciel libre. Venons-en à une sorte de thématisation de l'aspect plus politique de cette histoire. On reviendra forcément sur des éléments de l'histoire en rassemblant quelques pistes que vous avez déjà ébauchées tout à l'heure. Et peut-être commençons, parce que c'est quelque chose de très... C'est d'ailleurs la thématique par laquelle vous commencez, mais quelque chose qui est très immédiat. Quelle est la question du travail ? Est-ce que ce qui a fait, et ce qui fait encore la force de ce mouvement du logiciel libre, c'est pas simplement une manière, pour commencer, de travailler différemment, d'investir le travail différemment, et tout simplement dans la question de la collaboration, Sébastien Broca?
Oui, alors ce qui caractérise les projets de développement libre en général, bon après il y a quand même plusieurs modèles, mais c'est que la plupart des contributeurs sont très libres, très autonomes dans la manière dont ils gèrent leur travail. On n'a pas des hiérarchies managériales rigides comme on peut trouver encore dans les entreprises. Et ensuite, alors, cette question du travail elle a aussi été très importante. Elle a été théorisée notamment par le philosophe finlandais Pekka Immanen. Vous avez dû parler ici. Mm-hmm. Et lui, bon, il dit quelque chose de très simple, bon, qui est intéressant, qui permet de bien comprendre les choses. C'est, il dit, les développeurs de logiciels libres, leur rapport au travail, c'est un rapport qui est fondé vraiment sur la passion, sur l'intérêt personnel pour la tâche qu'ils accomplissent, et pas du tout comme dans l'éthique protestante théorisée par Max Weber, sur le devoir moral et sur l'intérêt financier. Donc vraiment, ce qui compte pour les hackers, pour les développeurs, c'est que le travail qu'ils font a pour eux un intérêt intrinsèque et qu'ils prennent du plaisir à programmer.
Mais tout ça, ça s'inscrit aussi dans une vieille histoire. Enfin, vieille histoire, je veux dire, une histoire... Enfin, quand je dis vieille, non, c'est pas vieille, c'est une histoire récente de la critique du travail, celle qu'on connaît dans les années 60-70, aux États-Unis notamment, mais dans l'ensemble des gauches occidentales.
Oui, c'est ça. Alors après, ce que j'essaie de montrer un peu dans le livre, c'est que finalement, toutes ces thématiques autour de l'éthique hacker et donc de cette volonté de promouvoir une autonomie dans le travail, finalement, c'est un discours qui est très proche de ce qu'on avait en 68, en France notamment, toutes ces revendications de mettre à bas les hiérarchies, justement, d'être plus libre dans le... Et puis bon, tout ce qui donnera aussi ensuite tout le mouvement pour l'autogestion, toutes ces choses-là. Et finalement, les informaticiens ont retrouvé ça quelque part par un autre biais et finalement défendent donc des choses assez similaires sur le travail comme devant permettre la réalisation de soi, devant permettre de développer toutes ces dispositions créatrices et donc cette revendication vraiment de liberté dans la manière dont on accomplit ce travail. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est là que l'histoire est évidemment toujours compliquée, c'est que toutes ces thématiques-là, elles ont bien entendu aussi été récupérées par tout le discours de management, notamment ce qu'on appelait le nouveau management. Et c'est vrai que le management aujourd'hui, c'est plus le management tel qu'il se présentait en 1968. Et donc ce discours du nouveau management, lui-même finalement, a repris ces thématiques-là en disant qu'il fallait sortir de ces hiérarchies rigides, de ces bureaucraties et laisser aux salariés plus de liberté pour justement leur permettre d'exprimer leur disposition créatrice, leur créativité, parce que c'est à mesure que le travail devient de plus en plus un travail intellectuel, un travail créatif, c'est ça qui devient aussi important pour les entreprises.
Oui, l'archétype de ça, Sébastien Broca, vous l'évoquez dans votre livre, ce sont les 20% de temps que Google accorde à ses salariés pour des projets personnels et créatifs, qui est en fait quelque chose qui est très compliqué parce que ça n'est pas accordé ou ça n'était pas accordé à l'ensemble du personnel, mais simplement à ceux dont on considérait qu'ils pouvaient être les plus créatifs. Et par ailleurs, toutes les études un peu sérieuses qui ont pu être menées, mais qui étaient un peu compliquées à mener parce que Google n'est pas forcément très très ouvert à la venue de sociologues et d'ethnologues dans ses bureaux, ont montré qu'il s'accompagnait d'une très forte pression exercée sous les salariés, parce que c'est aussi le moment, donc ces 20%, on est censé montrer qu'on est créatif, et que c'était beaucoup plus compliqué que ça. Mais ça donne quand même des choses. Est-ce que des grands projets qui, d'une manière ou d'une autre, doivent au logiciel libre, comme par exemple Wikipédia, ça crée quand même des hiérarchies? C'est que c'est pas parce que on s'organise différemment qu'on ne hiérarchise pas, et même parfois on est obligé d'hyper hiérarchiser parce que on met en branle des gens qui font travail un peu à leur manière pour le fun à des heures bizarres, et voilà.
Oui, bah c'est tout à fait vrai. C'est vrai qu'il y a eu un, alors il y a un texte assez célèbre qui s'appelle La cathédrale et le bazar d'Eric Raymond, qui présentait le modèle donc, du logiciel libre, le modèle d'organisation du travail, avec cette métaphore du bazar qui connote vraiment quelque chose qui serait purement anarchique, où il n'y aurait vraiment aucune hiérarchie. C'est en fait pas vraiment comme ça que ça se passe. Il y a effectivement dans les projets, en tout cas dans les projets importants, des formes de hiérarchie qui se recréent. Après, ce qui est intéressant, c'est que souvent, elles se recréent a posteriori. C'est-à-dire que chaque contributeur va être libre de travailler sur ce qui lui plaît et de la façon qui lui agrée. Mais par contre, ensuite, il y a quelqu'un qui va passer derrière et qui va corriger ou dire est-ce que cette contribution est pertinente, est-ce que je décide de l'intégrer ou pas au projet, et comme ça voilà. Donc il va y avoir une forme de hiérarchie, mais qui va s'exercer plutôt en aval, le travail lui-même restant accompli de manière assez libre et autonome.
Mais par exemple Wikipédia, on va pas détailler complètement le fonctionnement de Wikipédia, mais par exemple en quoi est-ce que Wikipédia c'est quelque chose qui provient dans l'idée du logiciel libre, et comment ça va s'architecturer cette organisation du travail, Sébastien Broca?
Alors Wikipédia, ça provient du libre de plusieurs façons. D'une part parce que donc, ce modèle de collaboration par Internet, c'est un modèle qui a été expérimenté pour la première fois par les informaticiens du libre, notamment autour de Linux. Donc ça, c'est vraiment ces formes de collaboration qui ont inspiré Wikipédia. Et après aussi, dans la culture ou l'idéologie de Wikipédia, enfin la philosophie de Wikipédia peut-être plutôt, ça vient aussi du libre avec cette idée que le savoir doit circuler, doit être ouvert et que tout le monde doit pouvoir collaborer. Voilà, ensuite, pour revenir à l'organisation du travail au sein de Wikipédia, c'est vrai qu'on a cette image d'une encyclopédie complètement ouverte, que n'importe qui peut modifier, etc. Ce qui est vrai, mais sauf qu'il faut voir aussi qu'il y a en quelque sorte la partie immergée de l'iceberg, où là, il y a quand même des procédures de régulation qui s'accumulent. Il y a des postes très précis. Il y a le poste d'administrateur, le poste, bon, je ne vais pas tous les faire, de masqueur de modification, le comité d'arbitrage. Bref, il y a des gens dans Wikipédia qui sont investis quand même d'un pouvoir supérieur à celui du contributeur lambda, quoi.
Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que récemment, il y a eu une série de textes paru dans la presse américaine et je crois notamment dans la MIT Technology Review, arguant du fait que le Wikipédia américain, le Wikipédia en langue anglaise, était précisément en train de mourir, ou en tout cas s'épuiser de sa propre bureaucratie. C'est intéressant, c'est-à-dire que l'idée que voilà, il faut, on est obligé de créer des modes d'organisation différents, mais qui deviennent aussi des bureaucraties et qui peuvent au bout d'un moment se scléroser dans leur propre bureaucratie. Mais il y a aussi une autre critique qui est intéressante sur cette organisation du travail, c'est que ça repose aussi d'une certaine manière sur l'idée que les gens travaillent quand ils veulent, etc. Ils ne sont pas forcément rémunérés pour leur travail. Et il y a une autre forme de critique qui est apparue, parce que cette espèce de modèle de tout le monde travaille quand il veut, etc., il s'est un peu répandu à d'autres choses, notamment à tout le mouvement qu'on appelle celui du crowdsourcing. Donc faire appel à une sorte de sagesse des foules, enfin des individus dans la foule, pour fournir du contenu, etc. Et que là, il y a aussi des sortes d'économies qui sont nées, se reposant sur un travail gratuit fourni par des gens qui soient développeurs ou pas développeurs, d'ailleurs Sébastien Broca. Et donc là, on a aussi une sorte de critique du logiciel libre, du mode d'organisation du logiciel libre, qui provient de sa gauche, si j'ose dire.
Ah oui, tout à fait. C'est vrai que des fois, ça ressemble un peu à des jeux de dupes, parce qu'on a des gens qui, évidemment, font du code ou d'autres choses, ou Wikipédia, ou tout un tas d'activités, parce qu'elles y trouvent justement un intérêt intrinsèque, que ça leur plaît. Et donc, bon, très bien. Et puis, elles considèrent ça plutôt comme du loisir, comme du travail. Sauf que c'est vrai qu'on ne peut pas non plus occulter le fait que derrière, il y a des entreprises qui vont être très habiles pour tirer une valeur économique de tout cela. Et c'est vrai que ça, on le voit très bien dans le logiciel libre. On a notamment un des modèles économiques qui existe dans le libre, c'est le modèle du service. Tout ce qu'on appelle notamment les SS2L, les
sociétés,
sociétés de services en logiciel libre. Donc ça va être des entreprises qui, donc vu qu'elles ne peuvent pas vendre le logiciel, puisque celui-ci, du fait des quatre libertés, est gratuit, elles proposent des services aux entreprises, donc d'installation, de personnalisation, de maintenance autour du logiciel. Et donc elles font payer ces services. Sauf que ces services, la fourniture de ces services par l'entreprise suppose que le logiciel ait déjà été écrit en amont, et bien souvent que des gens qui n'ont pas été payés, et écrit ce logiciel à partir duquel l'entreprise va ensuite construire un modèle de service qui parfois peut être extrêmement lucratif.
Il y a quand même des formes de rétribution, ça vous l'évoquez comme ça très très marginalement dans votre livre, mais il y a quand même des formes de rétribution symbolique pour ce type de personnes. Je ne sais pas, en termes de notoriété, non
c'est... Oui, ça c'est sûr. D'ailleurs, sinon les gens ne le feraient pas. Hein. S'ils le font, c'est aussi qu'ils y trouvent des formes de rétribution. Donc effectivement, en termes soit d'apprentissage, de reconnaissance par la communauté, ça effectivement c'est très important. Ou tout simplement d'amusement. Donc ça, c'est vrai que ça existe. Après, la question, c'est est-ce que, quand bien même les gens prendraient du plaisir et trouveraient une forme de reconnaissance et d'amusement, est-ce que c'est quand même pas un petit peu injuste d'avoir ce modèle où, où des entreprises font des bénéfices conséquents derrière. Bon, et du coup, ça a donné lieu, je précise juste, ça a donné lieu quand même à tout un courant assez critique, justement, dans une critique de gauche qui porte sur ce qu'on appelle le digital labor.
Oui, on avait parlé ici, c'est-à-dire l'idée que, on avait parlé, c'est une critique un peu marxiste de ce modèle-là, estimant qu'il y avait une forme d'exploitation du travailleur puisqu'il n'était pas rémunéré pour sa production. Bon, par ailleurs, on peut faire aussi une critique de cette critique-là, parce que est-ce que le marxisme est la catégorie.
Moi, je trouve que le terme d'exploitation, en fait, est assez mal choisi. Enfin, il est parlant, évidemment. Exploitation, ça. C'est, comment dire, argumentativement, c'est un terme qui marche bien. Après, je trouve que c'est pas exactement ça, notamment parce que, dans le cas du libre et de l'open source, le produit de ce travail, il n'est pas privatisé. Dans l'exploitation au sens de Marx, vous avez, en vertu de la propriété privée des moyens de production et du contrat de travail classique, eh bien le produit du travail est complètement approprié par l'entreprise. Dans le logiciel libre et open source, ce n'est pas le cas, vu que le produit de ce travail, à partir du moment où le code source reste ouvert, il reste librement accessible à tout le monde. Donc c'est quand même un peu différent de la situation classique d'exploitation selon Marx.
Alors, une autre chose que l'idée, la politique du logiciel libre engendre de manière très forte, évidemment, c'est un rapport à la technique. C'est-à-dire que, et comment on pourrait qualifier d'ailleurs le rapport à la technique qui est le substrat de la politique du logiciel libre, Sébastien Broca? C'est quoi? C'est la créativité? C'est la bidouillabilité? C'est quoi?
Ouais, c'est ça. Bah, historiquement, donc ça vient de cette idée, de cette culture en fait du hacking. Et parce que hacking, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on traduit en français, c'est un peu maladroit, mais on dit effectivement que c'est la bidouille, quoi. Donc c'est cette idée, c'est un terme qui est apparu donc au MIT justement, mais un peu avant Stallman, les années 60, chez les étudiants en informatique qui revendiquaient justement d'avoir ce rapport un peu créatif, ludique, espiègle à la technique, c'est-à-dire que d'ouvrir le capot, de bidouiller leur logiciel ou leurs objets techniques en général, et puis comme ça d'avoir ce côté un peu ludique, créatif par rapport aux objets techniques. Et du coup, en fait, c'est cette culture-là qui se perpétue dans le discours du libre jusqu'à aujourd'hui, qui est de dire, par exemple, on a fait des gens, en tout cas de la plupart des gens, des consommateurs de technologie qui sont dans une passivité totale par rapport aux objets qu'ils utilisent, qui sont capables de les faire marcher, mais qui ne comprennent pas une seconde comment ils marchent, et qui seraient aussi bien incapables de faire la moindre modification, la moindre bidouille sur leurs objets. Et donc, les gens du libre essayent un peu de faire vivre ou de retrouver cette culture historique du hacking.
Donc, l'ennemi, c'est Apple.
Oui, clairement, aujourd'hui, c'est Apple. C'était Microsoft pendant longtemps. Maintenant, vraiment, c'est Apple.
Et pourquoi est-ce que c'est Apple? Parce qu'Apple, c'est quoi? C'est fermé. Je ne sais plus, dans votre livre, il y a une phrase assez jolie de quelqu'un qui dit, je me demande si ce n'est pas Doctorow ou quelqu'un comme
ça. Je le cite.
Vous le citez, qui dit Apple, c'est comment est-ce que changer les piles devient un exploit technologique ou quelque chose comme ça?
Oui, exactement. Il dit offrir un produit Apple à vos enfants, c'est leur dire que même changer les piles, ça doit être fait par un expert, quoi. Qui va même pas faire ça, que tout. Bon, c'est un peu exagéré, mais en tout cas, cette idée, c'est que c'est des produits très beaux, très ergonomiques, très simples à utiliser, mais qui sont complètement fermés, complètement opaques. Et donc, les gens comme Doctorow disent, moi, si j'avais eu des produits Apple, je me serais jamais mis, comme eux, ils l'ont fait il y a 20 ou 30 ans, à bidouiller mon ordinateur et du coup, à apprendre comme ça par la pratique, à devenir codeur, en tout cas.
Voilà. Donc, parce que c'est quelque chose qui est assez beau et qui préside depuis le début dans cette histoire du logiciel libre. C'est un rapport assez, au fond, très assez beau à la technique, je trouve. C'est-à-dire qu'il y a un rapport de non-soumission totale à la technique. C'est-à-dire que dans Stallman, depuis le début, il dit OK, construire des logiciels qui soient hyper efficaces, excellents, etc., c'est pas le but. C'est pas le but ultime. Le but ultime, et donc on va dépasser par la technique, etc. Ce qu'il faut, c'est nous la maîtriser. Quoi. La maîtriser au prix parfois qu'elle soit pas super, brinque-ballante, bidouillable, bricolée, etc. Donc au fond, tous ces gens qui sont des informaticiens de génie, parce que Stallman c'est un informaticien de génie, qui sont très très forts en informatique, et ben dans leur travail, dans leur manière de faire, etc., ils postulent le fait qu'il faut qu'on la domine, cette technique. Il faut pas qu'on soit. Donc c'est quelque chose que je trouve très beau dans toute cette histoire du logiciel libre.
Ouais, c'est intéressant parce que moi c'est ça aussi qui m'a beaucoup intéressé, c'est que c'est un mouvement de techniciens qui a quand même un discours un peu critique par rapport à la technique, et ce qui est en fait assez rare. Et Stallman, il a une phrase assez jolie qu'il dit souvent. Il dit « Je suis content que les logiciels libres soient performants, mais en fait, je m'en fiche parce que je ne brade pas ma liberté pour des questions de convenance. » Donc, quand bien même, ça aurait été moins efficace que le logiciel propriétaire, peu importe, j'aurais quand même continué à utiliser des logiciels libres. Mais donc du coup, c'est vrai que ça donne à ce mouvement du libre aujourd'hui une portée critique qui est assez grande, parce qu'on est quand même dans un monde où on est entouré par ces objets technologiques, plus ou moins gadgets, mais parfois très, très bien, très efficaces, très beaux. Mais c'est vrai qu'il y a en même temps une absence de culture technique du grand public qui me semble assez nette. Et c'est contre ça que le libre essaie de lutter. Ouais.
Alors, et donc le libre va aussi donner aujourd'hui tout ce qu'on connaît, hein, qui commence à affleurer dans les médias les plus généralistes, qui sont ces Fab Labs, l'imprimante 3D, donc l'idée qu'on pourrait chacun devenir fabricant de nos propres objets à travers la possibilité d'avoir une imprimante 3D, donc qui permet de fabriquer des objets, toute cette espèce d'idée qu'on appelle le maker, les makerspace, etc. Donc l'idée qu'on serait tous des fabricants. Tout ça aussi, c'est des sortes de prolongations de ce rapport à la technique double, c'est-à-dire à la fois il faut s'emparer de la technique, il faut comprendre, il faut mettre les doigts dedans, etc., mais pour la maîtriser, pour pas être dominé par elle.
Oui, ça, c'est l'idée qu'il faut retrouver finalement des savoir-faire qui ont un petit peu disparu, en tout cas pour le plus grand nombre, et l'idée qu'on va reprendre le contrôle en fait sur nos outils. Et c'est ça qui se joue donc un peu avec tout ce qu'on appelle l'open hardware, notamment les imprimantes 3D, c'est la partie la plus visible.
Donc un réinvestissement du hardware, ça qui est intéressant, c'est qu'au fond, c'est des gens qui ont commencé par la question du logiciel libre, donc le logiciel, et qui vont revenir à l'aspect le plus matériel de l'ordinateur, c'est qu'on ouvre vraiment la machine, quoi.
Ouais, c'est ça. Alors parfois c'est pas les mêmes, hein, mais c'est d'autres. Mais ce qui est intéressant, c'est que il y a un peu ces détours en fait, ou même maintenant les mouvements écologistes parfois sont extrêmement intéressés par ces questions d'open hardware, de design ouvert, etc.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui les intéresse là-dedans ?
Parce que ce qui les intéresse là-dedans, c'est de plus être dépendant de la consommation de masse et des grands acteurs industriels, et de pouvoir, grâce à ces technologies, aller vers ce qui serait une forme de relocalisation de la production. On aurait des ateliers communaux, par exemple, où les gens pourraient fabriquer eux-mêmes des objets du quotidien, ou réparer les appareils, leurs machines défectueuses, et seraient du coup moins dépendants du système industriel.
C'est là, par exemple, qu'on comprend la jonction qui se fait entre le logiciel libre et, par exemple, André Gors à la fin de sa vie, quand il s'intéresse à ces questions-là.
Ouais, c'est ça. Et donc André Gors était à la fin de sa vie absolument vraiment fasciné. Je crois que le terme n'est pas trop fort pour le logiciel libre, parce qu'en fait, et par tout ce que ça donnait, donc notamment cette histoire d'open hardware et de fabrication personnelle, parce qu'il y voyait en quelque sorte l'incarnation technologique de l'utopie politique qu'il défendait depuis longtemps, à savoir quelque chose d'une utopie décentralisatrice avec des petites communautés plus ou moins autosuffisantes, ou en tout cas qui seraient à même de fabriquer elles-mêmes les choses dont elles auraient besoin, et aussi avec cette idée d'une réappropriation par les gens au niveau local d'un certain nombre de savoirs, de savoir-faire qui ont disparu finalement dans le monde industriel, quoi. Et donc on a ces détours qui sont quand même toujours assez marrants à voir en termes d'histoire des idées, c'est-à-dire qu'on a ces utopies politiques des années 70 notamment. On a cité Gors, on pourrait citer aussi Illich,
Ivanich, bien sûr, ouais.
Ou des gens comme ça. Et ces idées-là, finalement, elles sont en train de revenir par le biais de l'open hardware, de l'imprimante 3D, des Fab Labs, des makerspace, etc., avec ce détour qui est quand même assez improbable par l'informatique, quoi.
Alors Sébastien Broca, le troisième grand pan politique, disons, de ces politiques du logiciel libre, ce serait évidemment tout ce qui tourne autour de la libre circulation de l'information. Alors c'est peut-être la chose la plus évidente, la plus simple, et puis bon, nous, c'est vrai qu'à Place de la Toile, on s'est fait quand même assez régulièrement le relais de ces luttes aussi. Lutte contre, vous l'avez dit tout à l'heure, l'Adopi, évidemment, mais ça avait commencé à avant, dans la lutte contre DAPSI, contre les DRM, donc ces espèces de technologies qui bloquent les contenus, qui empêchent leur partage, etc. Mais ça a été aussi la lutte contre l'ACTA, donc l'accord, gros accord de lutte contre la contrefaçon. C'est aujourd'hui TAFTA, autre accord de libre-échange. Donc on sait bien que là, effectivement, ces gens-là, autour notamment de la quadrature du net, ce sont des gens qui proviennent de l'univers du logiciel libre et qui, parce qu'ils défendent la liberté, la libre circulation de l'information, dont vous avez expliqué tout à l'heure qu'elle était, à travers l'échange de bouts de code, etc., à l'origine, au fondement du logiciel libre, vont s'organiser. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est est-ce que, selon vous, ça donne lieu à aussi des manières de faire de la politique un peu différemment ?
Oui, en tout cas, c'est quand même ce que revendiquent. Vous avez cité la quadrature du net. C'est vrai qu'eux, ils revendiquent vraiment d'appliquer au champ politique, finalement, la méthode du libre, c'est-à-dire une méthode basée vraiment sur, sur un certain nombre d'outils donc, liés à Internet, les wikis par exemple, hein, mais d'autres aussi, et aussi que cette idée qu'on va mettre en commun l'information, partager l'information, collaborer, et aussi que c'est, puis avec aussi une certaine revendication de transparence, quoi, parce que le logiciel libre, c'est quand même la transparence du code à la base.
De transparence du code à la transparence
plus globale, ou en tout cas une transparence de la vie politique. Un des grands combats de la Quadrature du Net, c'est de dire que des accords, donc ceux que vous avez cités, ACTA ou TAFTA en ce moment, c'est des accords qui sont scandaleux en raison de leur contenu, peut-être, mais surtout parce qu'ils sont négociés complètement dans l'opacité la plus totale et hors du regard de l'opinion publique.
Donc, où l'on voit bien donc, que ce cœur politique du logiciel libre s'étend à des champs très différents. On aurait pu évidemment parler encore de la question des communs, dont on a un peu parlé ici, où tout à coup, la question du logiciel devient prétexte à une réflexion beaucoup plus large sur les communs comme étant aussi des ressources naturelles. Au fond, gérons l'eau, la forêt, comme on gère le logiciel libre, mais aussi comme on a géré auparavant des champs dans les cultures agraires médiévales en Angleterre. Enfin, ces genres de jonctions comme ça qui seront assez étonnantes. Mais on ne va pas pouvoir aborder tout ça malheureusement, parce que tout de suite, c'est le complément d'enquête de Thibault.
Attendez un instant, j'en ai pour une seconde. Il y a une question que je voudrais vous poser. Oh, c'est pas que ce soit très important.
Thibault.
Sébastien Broquet, est-ce que vous bradez votre liberté pour des raisons de convenance?
Oh là là, quelle question mesquine. Non, je rigole.
C'est-à-dire, est-ce que vous ne vendez pas votre livre? C'est ça ce que vous voulez dire, Thibault?
Non. Okay. Est-ce que vous vous servez de logiciel libre uniquement? Ou alors, est-ce que vous pouvez, disons, pour faire plus simple, nous faire un peu le portrait du libriste, de quoi il se sert, quel logiciel il utilise?
Le libriste, il utilise, effectivement, le vrai libriste, je ne suis pas sûr d'en être un, hein, je suis un peu plus œcuménique, on va dire. Mais le vrai libriste, oui, il utilise un système d'exploitation. Déjà, il utilise évidemment ni Windows ni macOS, il utilise un système d'exploitation libre. Et il essaye d'éviter aussi les réseaux sociaux, Facebook, dont il n'approuve pas l'utilisation des données personnelles et l'opacité. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il évite aussi le cloud, il essaie d'avoir le contrôle sur ses données personnelles, et puis parfois il utilise la cryptographie pour pas que ses mails puissent être lus par des agents de la NSA ou autre.
Voilà. Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner, je ne sais pas, en termes de pénétration du logiciel libre dans les administrations ou dans certains pays qui auraient mis en place des législations particulières?
Alors, des chiffres, je vais être un peu en peine d'en donner, malgré mon statut de sociologue. Mais
on sait par exemple que des universités s'équipent en logiciel libre, la Gendarmerie nationale récemment, je crois, en logiciel libre.
Il y a eu la circulaire Hérault il y a un an qui a incité les administrations à utiliser en priorité des logiciels libres. Après, il y a des grands enjeux là-dessus, notamment sur l'éducation nationale, puisque pour l'instant, la situation, c'est que dans le supérieur, normalement, il y a une priorité officiellement, priorité est accordée au logiciel libre, mais ce n'est pas le cas dans le secondaire. Et donc là, il y a des grands débats. Il y a quelques temps, l'amendement Attard qui finalement a été refusé sur ces questions-là. Mais donc, il y a des grandes questions politiques sur effectivement la pénétration du logiciel libre dans les administrations et aussi un lobbying des éditeurs propriétaires pour éviter que le libre ne grignote trop de parts de marché.
Il y a une autre question aussi qui fait souvent débat dans le monde du libre, c'est la question des femmes qui sont très peu représentées.
Oui, c'est vrai. C'est
malheureux.
C'est malheureux, oui. Et c'est vrai que c'est très sensible dans le monde du libre, mais comme ça l'est aussi dans beaucoup de milieux à forte composante technologique, on va dire.
Ça s'explique. Ça se remédie. Comment?
On va vous demander de faire de la politique aux sociologues maintenant.
Ah là là, c'est des questions compliquées. Mais ce qui est vrai aussi, peut-être ce qu'on peut reprocher parfois aux libristes, c'est d'être pas toujours très accueillant. C'est des gens aussi qui revendiquent quand même une forme de... Parfois, ça fonctionne un peu comme une aristocratie technique aussi. Il y a une forme d'élitisme et puis une forme de fermeture qui peut être un peu rebutante pour des femmes et pour d'autres, hein, évidemment. Ça, là, c'est plus large.
Et du coup, vous qui avez étudié la question, j'imagine que vous devez avoir quelques idées sur la façon dont ce mouvement-là peut prendre de l'ampleur, ou au contraire, vous le voyez évoluer comment, en gros, en quelques mots?
En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il se développe dans plusieurs...
J'ai 20 secondes.
J'ai 20 secondes. Je pense que les libristes auraient intérêt peut-être à investir plus fortement le champ politique. Et c'est pour ça que je trouve que ce que fait la Quadrature du Net est intéressant, parce que je pense qu'essayer de porter ces valeurs-là et ces questions-là dans le champ politique, c'est peut-être la nouvelle étape.
ou d'une certaine manière une partie du parti pirate d'ailleurs, qui aussi reprend des éléments du libre, notamment par exemple la revendication d'un revenu universel, qui est pas bête dans l'idée que chacun produit des choses de manière informelle, etc. Et peut-être que donc on aurait tous besoin d'avoir un revenu universel pour pouvoir être des producteurs de libre, justement, de logiciels libres.
C'est une idée politique qui est intéressante, dont on parle beaucoup. Et...
Ouais, et allez-y.
Et qui pose plein de questions, c'est qu'on n'a pas le temps, on a vraiment pas le temps de revenir. mais effectivement, c'est ce genre de choses qu'il faudrait porter dans le champ politique.
Merci beaucoup Sébastien Broca. Donc je rappelle le titre de votre livre, Utopie du logiciel libre, du bricolage informatique à la révolution sociale. C'est paru au Passager clandestin. Je recommande vraiment vivement la lecture de ce livre, qui est une réflexion parfaite pour se familiariser avec toutes ces questions. Bon réveillon, j'ai pas dit, je vous ai pas souhaité. J'espère que vous avez passé un bon réveillon du 25. J'espère que vous passerez un bon réveillon du 30. Je ne souhaite pas en avance bonne année car ça porte malheur, mais on se retrouve début janvier pour une prochaine Place de la Toile. Place de la Toile, Thibaut Henton, Xavier Delaporte à la technique, c'était Vincent René, réalisation Vanessa Nadjar. Il est 19h sur France Culture. Tout de suite, vous retrouvez Elisabeth Tchungi sur Écoute. Bonne soirée, bonne semaine.